Bienvenue dans le Mac de l'été.
Hier, j'ai dîné en survêtement tacchini au flore. Je me suis dit que le passéisme, l'orgueil, la suffisance avaient fait de nous un peuple vieux, composite. La cité maintenant, à son cœur défendant, pourtant, ne fait plus qu'imiter et mal les médiocrités nostalgiques. Que vieux discours, vieux schéma et sur le dos un vêtement neuf, les voilà prétendant à la jeunesse éternelle. Si la vieillesse a ses vertus à la dissimuler lui ôte toute forme de sagesse. La France est vieille parce qu'elle refuse d'être elle-même, c'est-à-dire spirituelle.
Bonjour Abdelmalik.
Bonjour.
Quel est le texte que vous venez de nous lire, Abdelmalik ?
Alors ce sont les toutes premières lignes de mon prochain roman, qui s'intitule « Méchante blessure ».
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Mac de l'été, le magazine culturel de vos débuts de soirée sur France Inter. Après notre début de semaine très cinéma, où nous étions en direct du Festival de Locarno, c'est sur le parcours d'un artiste protéiforme que nous allons nous pencher pour notre retour à Paris. Abdelmalik rappe, joue, met en scène, réalise, écrit. Il est engagé aussi dans de multiples causes, l'accès à la culture pour les jeunes des quartiers, la défense d'un islam de tolérance en accord avec les valeurs de la République. Il a écrit sur ses sujets, on connaît les combats qu'il ne cesse de mener, mais c'est une autre facette de lui qu'il révèle dans « Méchante blessure ». Le roman dont il vient de nous lire les premières phrases et qui paraîtra la semaine prochaine, le 22 août, aux éditions Plon. On découvre, à travers son personnage, Camille, anagramme de Malik, un homme en proie au doute, tourmenté, plus sombre. C'est une plongée dans un monde peuplé de créatures en tout genre qui se dessine, un voyage intime où les méchantes blessures de l'enfance suintent encore.
France Inter. Duh. Le Mac de l'été. Anna Sigalevitch.
Pourquoi ce choix pour entrer avec nous dans le Mac de l'été ?
Comment dire, je suis porté par une forme d'émotion comme ça, parce que c'est mon huitième ouvrage, mais en fait, c'est vraiment mon premier roman au sens propre du terme, c'est-à-dire un roman pur. Et j'ai voulu voilà, lire comme ça les premières phrases. Je fais partie de ces lecteurs-là qui sont pris par un livre, par le premier chapitre et les premières phrases. Donc j'ai voulu partager ça avec vous.
D'où vient cette lumière au-dessus d'elle et ce pas de louve caressante? Ces hanches qui roulent, facile, naturel, y a-t-il un amour qui la hante? C'est peut-être juste l'encarante. On dirait quelquefois qu'elle a des ailes, ou comme une audace l'insolente. Un avis nouveau, une envie nouvelle, elle en deviendrait fatigante. Ce n'est rien de plus que l'encarante. Elle est un peu cabri, un peu brûle d'amour du cœur au ventre. Cette eau qui bouillonne, où la puise-t-elle? Tout ce que l'on sait, c'est qu'elle entre avec le sourire en l'an 40. Quelques années, quelques séquelles, quand elle sera sur d'autres pentes, en pleine sagesse, du moins le croit-elle, pour accompagner la descente, elle se souviendra de l'an 40.
C'était la chanson L'An 40, extrait de l'album de Jeanne Chéral qui sortira le 20 septembre prochain et que nous recevrons lundi prochain, le 19, dans le Mac de l'été.
Le Mac de l'été sur France Inter.
Vous êtes dans la rentrée littéraire, Abdelmalik, puisque donc vous publiez chez Plomb Méchante Blessure, qui sera en librairie dans quelques jours, le 22 août. C'est donc votre 8e ouvrage depuis Qu'Allah bénisse la France, paru en 2004. Alors c'est un roman qui met en scène les réflexions, les interrogations profondes de Camille, un rappeur français, populaire, noir, musulman, un personnage auquel immédiatement le lecteur vous identifie, Abdelmalik.
Oui. Moi, en fait, il y a quelques années, il y a un livre qui m'a vraiment marqué, qui m'a, je dirais, vraiment inspiré. Je me suis dit, un jour, j'écrirai un livre dans cet élan-là. Et c'était le 3 jours chez ma mère de François Ouyrgans. J'aimais bien ce rapport entre lui, l'écrivain, et son avatar, comme ça, qui évoluait, qui se posait finalement les questions que se posait l'auteur et qu'on se pose tous d'une manière ou d'une autre. Donc, pour moi, c'était intéressant d'être dans ce schéma-là.
Un dialogue entre votre personnage et vous-même.
Exactement.
On peut parler quand même de roman autobiographique.
Non, parce que Camille me ressemble un peu, mais c'est pas moi, en fait. Et il y a des choses qui ressemblent forcément, mais j'ai envie de dire, tous les romans, L'étranger de Camus, c'est un peu autobiographique, mais Meursault, c'est pas Camus, quand même. Et donc voilà, non, c'est un roman en fait.
Tout c'est court. Un roman. Ouais. Alors, Méchante Blessure nous emmène de la France au Congo, de New York à Londres, pour finir au large de Madagascar, sur une petite île, l'île de Sainte-Marie. C'est un grand voyage dans lequel vous embarquez le lecteur, vous embrassez de très très nombreux thèmes, on y reviendra bien sûr, mais ce voyage, c'est avant tout un voyage qui me semble très intime.
Ouais, profondément. Le fait d'aller justement dans différents endroits comme ça, finalement, de la planète, différents continents, il y a cette idée de, que le monde extérieur est miroir de notre monde intérieur. Et c'est de ça que je voulais parler en réalité. Et finalement, en se déplaçant comme ça, Camille se déplace à l'intérieur de lui-même, réellement.
On vous perçoit, Abdelmalik, comme quelqu'un de très solaire, de très lumineux, hein, quand on vous voit vous adresser à votre public, en scène, ou même au cinéma, ou dans des interviews. Là, c'est une part que je trouve très différente que vous livrez de vous. On découvre une part qui est sombre, qui est tourmentée, qui est douloureuse aussi. Et j'ai eu le sentiment que vous vous livrez d'une façon assez inédite.
Ben, disons que ça fait partie de moi également. Mais disons que c'est aussi une exploration en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain, en tant qu'être. Et c'est aussi cette idée de se raconter à travers l'histoire d'un autre. Et d'une certaine manière, peut-être aborder aussi des parties intérieures, des parties de mon intimité que j'aurais pas abordées autrement.
C'est un roman aussi sur la perte.
Ouais.
La perte du père, la perte de l'être aimé,
ouais.
La perte de soi-même. On sent ça très fort. Vous disparaissez même à un moment dans le livre. Est-ce que c'est une façon aussi de pouvoir se réinventer et renaître? Est-ce que ça part de la perte, tout ça?
C'est marrant que vous disiez que vous disparaissez, mais en fait c'est Camille, c'est pas moi.
Non, absolument, le personnage Camille disparaît.
Ouais, non, mais parce que c'est une vraie...
Votre héros, parce que vous employez quand même la première personne du singulier, vous dites « je » dans le livre,
ben
donc
oui, mais...
votre héros.
C'est... Non, mais la réalité c'est que... Et puis Camille, c'est l'anagramme de Malik aussi, mais il y a cette idée-là, véritablement, il y a cette idée de la perte, mais aussi c'est aussi une réflexion sur la finitude, sur le fait de se dire que on agit de telle manière, on pense de telle manière, parce que on a conscience ou pas que les choses s'arrêtent à un moment donné. Et pour moi, c'était une vraie réflexion sur ça, et en écho à une réflexion sur l'art. Et tout ça se rejoint, parce que j'ai toujours dit et toujours pensé que nous sommes tous des artistes, dans le sens où notre œuvre d'art, avant tout, le chef-d'œuvre en tout cas qu'on a envie de faire, c'est notre propre vie. Donc quelque part, il y a 7 milliards d'habitants, il y a 7 milliards d'artistes.
Vous pensez qu'il y a 7 milliards d'artistes, que tout le monde est artiste?
Profondément.
Qu'est-ce que ça veut dire être artiste?
Ben, ça veut dire, d'une certaine manière, être en quête de perfection. Vouloir, en tout cas, créer quelque chose qui soit beau, qui soit harmonieux, qui soit en phase avec... et finalement, c'est notre vie.
Et c'est la transcendance, on peut parler
ouais,
de ça, de chercher une forme de transcendance?
Oui, totalement une forme de transcendance. Et finalement, qu'on croit en Dieu, qu'on croit pas en Dieu, qu'importe. Mais en tout cas, chercher... Et cette transcendance première, c'est d'abord finalement le fait de magnifier l'humanité. Parce que on évidemment, on est différents, on est hommes, femmes, on est vert, jaune, rouge, on vient de différents continents, etc. Mais le lien qu'on a, c'est qu'on est tous des êtres humains. Et en ce sens-là, il y a une sorte de quête de perfection. Et finalement, nous autres artistes concrets, notre production artistique est symbole d'existence.
Alors, vous parlez de quête. Moi, j'ai aussi beaucoup lu votre livre comme un parcours initiatique. Mmh. Et j'ai pensé à un texte de Farid Attar qui s'appelle La Conférence des Oiseaux, qui est un poète persan du 12e siècle, soufi aussi, où il y a une bande d'oiseaux. Je ne sais pas si vous connaissez
ce texte. Je connais ce texte. Il est fabuleux. Enfin, que vous mettiez ça en lien avec mon texte, je trouve ça, c'est merveilleux, c'est beau. Parce que, au fond, c'est ça. Parler de quête initiatique, parler de cheminement. C'est de ça qu'il est question.
De ça. Et puis, la clé du bonheur est finalement, parce que donc ces oiseaux, dans la conférence des oiseaux, ils cherchent le Simorgue, leur roi, donc ils traversent cette vallée, enfin c'est un voyage immense qu'ils font à travers le monde, et puis finalement quand ils arrivent au bout de leur voyage,
ils se rendent compte
que
finalement le Simorgue c'était eux en fait,
exactement.
C'était eux-mêmes. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'on cherche à l'extérieur de soi, on court à gauche, à droite, et en réalité la réponse est là, avec nous, à l'intérieur de nous.
La spiritualité, elle est très 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 présente dans le livre, elle jalonne vraiment tout le roman. Il y a même une mise en abîme dans le roman où quand le personnage de Camille dit à Rita « Mais si le livre parle de spiritualité, il faudra se mettre à nu comme jamais.
Ouais. »
Pourquoi ?
Le cheminement, d'une certaine manière, est, comment dire, si on veut que ce soit opératif, il y a une condition première qui est la sincérité.
Mmh.
Et la sincérité, c'est se mettre à nu. C'est apprendre à lâcher prise, d'une certaine manière.
Oui, vous dites ça beaucoup dans le livre, de lâcher prise.
D'une certaine manière, si on ne fait pas ça, on est toujours dans le rôle social, parce qu'on est fille, fils, mari, épouse, sœur, amant, amante, etc., etc. Et on reste dans des rôles et on n'est pas finalement dans ce qu'on est essentiellement. Et l'idée du cheminement spirituel, c'est ça, c'est revenir à l'essentiel, c'est se mettre à nu.
Vous évoquez des figures importantes dans votre parcours, dans votre vie, Abdelmalik. Et parmi elles, il y a Juliette Gréco.
Printemps de Bourges, pour moi, c'est chaque fois un printemps. Mais les feuilles sont encore jaunes, les fleurs sont encore sur les arbres et les feuilles pas encore. C'est un petit peu l'image de cette jeune génération de chanteurs qui sont toutes en fleurs et pas encore en feuilles. Et ça m'enchante. Ça me remplit de bonheur, voilà. Je voudrais que tous ces gens qui ont du talent aient la possibilité de s'exprimer longtemps. Parce que je sais le bonheur que c'est.
Vous allez partager ce mercredi la même affiche qu'Abdelmalik. Qu'est-ce qui vous séduit chez lui ?
Son talent et ce désir de paix, de compréhension, de partage. Ça fait partie des enfants que j'aurais bien aimé avoir. Ouais. J'aurais bien aimé un fils comme Yosek et un fils comme Malik.
C'était Juliette Gréco, donc au micro de France Inter le 18 avril 2007. Donc elle aurait aimé vous avoir pour enfant, vous auriez bien aimé la voir pour mère. Est-ce que vous la considérez un peu comme une seconde mère ?
Comment dire, je la considère vraiment comme à la fois une sorte de marraine, mm-hmm. une bonne fée, et en même temps, le modèle absolu de qu'est-ce qu'être un artiste. Et c'est pour ça que lorsqu'on me demande de décrire un artiste, comment je considère, enfin, ce qu'est pour moi un artiste, souvent je la cite, je dis être Juliette Gréco en fait.
Et qu'est-ce que ça veut dire être Juliette Gréco ? Elle est comment, Juliette Gréco, comme artiste ?
Waouh. Elle est.
Oui, c'est difficile comme question, je sais, mais.
Elle part de quelque chose qui est de l'ordre d'abord d'une saine colère. Elle est indignée. Et je pense que l'indignation, c'est le préalable à toutes les formes d'engagement. Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, c'est que elle pratique l'art perdu de l'interprétation. C'est-à-dire qu'elle a cette capacité, elle n'écrit pas ses textes, donc elle les interprète. Et elle habite tellement le texte d'une manière tellement puissante qu'on croit finalement que c'est elle qui a écrit les textes. Et moi qui ai eu la chance d'écrire pour elle, l'extrême honneur d'écrire pour elle, après toutes ces grands écrivains, ces grandes figures qui ont écrit pour elle, lorsqu'elle a interprété le texte que j'ai écrit, je reconnaissais plus mon texte. Je disais, et pourtant c'était mes mots, elle avait rien changé, mais l'interprétation, c'est une artiste incroyable, fondamentale.
C'est un couple que vous avez rencontré, Juliette Gréco et Gérard Joannest, l'homme avec lequel elle a partagé sa vie pendant plus de 30 ans, le pianiste de Jacques Brel notamment. Vous racontez votre première collaboration avec Gérard Joannest dans le livre. C'était sur votre premier album, Gibraltar, la chanson L'Alchimiste. Et vous décrivez une scène où, après avoir travaillé avec lui, vous lisez tremblant le texte de votre chanson à Juliette Gréco. Et à leur attitude, vous comprenez vraiment le sens profond dans votre chair, d'enfant de cité d'HLM, je vous cite, du mot reconnaissance. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot reconnaissance ?
Ça veut dire que on est par rapport au regard qu'on porte sur nous. Et ce regard-là participe à la notion de lien générationnel. Et en creux, à cette idée d'épanouissement en tant qu'être. Et j'ai envie de dire que si on regarde, moi j'ai eu la chance justement que des gens comme Juliette, des gens, et puis avant, me portent ce regard en disant que j'étais beau, que j'étais intelligent, que j'avais du talent, etc. Et donc, moi, j'ai d'une certaine manière, j'ai agi en conséquence. Mais à combien de gens qui viennent justement de la périphérie, ces gens de cité HLM, de quartiers populaires, de villages abandonnés, on leur dit tu n'es pas beau, tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas chez toi, etc., etc. Tu es terroriste, tu es... Et ils finissent par le devenir, in fine. On doit regarder... parce qu'il ne faut pas oublier que Juliette et moi, elles regardent un enfant. J'ai beau être un adulte, elles regardent un enfant. Mais il y a aussi les enfants concrets. Et on doit regarder tous les enfants comme des enfants. Il n'y a pas des enfants différents. Tous les enfants doivent regarder ces enfants de la périphérie comme nos propres enfants. Et à partir de là, voilà, même symboliquement, ne dit-on pas mère patrie. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment ce lien filial
fondamental, qui est fondamental. Ouais, ouais. Vous dites d'ailleurs dans Méchante blessure que, là je vais vous citer encore, que c'est vraiment dans la transmission que se trouve l'antidote à toutes les formes de médiocrité, que la transmission culturelle est le médium ultime pour rétablir un imaginaire collectif sur le terreau duquel, malgré ou plutôt avec nos différences extérieures, on pourra enfin véritablement faire peuple.
J'ai rien à rajouter.
Alors, faire peuple, c'est une expression que vous utilisez beaucoup, beaucoup. Ouais. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous vous y prenez pour faire peuple? Dans le livre, il y a deux passages, deux chapitres, le livre 1, faire peuple, le livre 2, faire peuple, qui sont d'ailleurs des chapitres avec une autre typographie. Ouais. Donc, voilà, on sent l'importance du mot faire peuple, ouais, de l'expression faire peuple. Qu'est-ce que ça veut dire?
D'abord, la typographie est autre parce que c'est le livre Camille lui-même est en train d'écrire. Il faut qu'il a écrit, en fait. Bon, en bon français, sans spolier notre histoire. Bon, mais qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire tout simplement que qu'est-ce qu'être français? Qu'est-ce qu'être européen? C'est une couleur de peau? C'est une religion? C'est un sexe? Qu'est-ce que c'est? Et en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est d'abord le fait d'adhérer à une philosophie particulière, à des valeurs particulières, le croire en des institutions, croire en la démocratie, croire en la laïcité, croire en des choses comme ça. Et à partir de là, c'est aussi le fait de magnifier la complexité. Moi, je suis, comment dire, mes racines sont congolaises, africaines, je prends soin de mes racines, elles sont importantes, mais mon tronc, mes fruits, mes branches, je suis français, européen. Il n'y a pas de schizophrénie en moi, il n'y a pas de double identité, je ne suis pas franco-congolais, je suis français aux racines africaines et congolaises. Et ça, c'est hyper important parce que c'est cette idée d'amener de l'harmonie, c'est cette idée tout à l'heure, si on veut le multiple, si on veut comprendre la multiplicité ou le multiple en nous, on doit d'abord avoir comme base commune une forme d'unicité. Et c'est de ça que je parle, en fait. Et c'est de ça que notre personnage parle. Et faire peuple, ça veut dire relever le défi non seulement du bien vivre ensemble, mais la capacité de changer le monde et qu'il soit en cohérence avec nous aujourd'hui au XXIe siècle. Strasbourg. Autour de la place Kléber tournoyaient les autobus blancs et rouges, où ne faisait qu'un, Alsacien d'adoption et Alsacien de souche. Derrière la place Gutenberg, le magasin Old River laissait les petits voleurs à la tire rêveur. Et place de la cathédrale, les cœurs orientés vers le paradise, tous les lycéens techniques et toutes les lycéennes techniciennes, fervents adeptes de l'école buissonnière, avaient la jeunesse vieille à cause de la vie en cité HLM. Mais qu'on vienne des quartiers périphériques ou du centre-ville, on savait tous qu'on était pareil. Mais qu'on vienne des quartiers périphériques ou du centre-ville, on savait tous dire t'es belle, Strasbourg. Autour de la gare, c'est la guerre où errent à gare et en guenille les amis d'autrefois, ceux du temps où on avait tous vraiment la foi. Bien sûr, pas celle imbécile qui assassine rue des Orfèvres et laisse courir l'idée qu'on ne serait pas tous des frères. Mais sur le chemin de la grande rue, les cœurs se mettent à nu, ceux qui vendent et ceux qui se vendent, tout en demandant à la vie de les attendre. Mais bien que nous n'acceptions pas les conseils, nous avions la jeunesse vieille à cause de la vie en cité HLM. Mais qu'on vienne des quartiers périphériques ou du centre-ville, on savait tous qu'on était pareil. Mais qu'on vienne des quartiers périphériques ou du centre-ville, on savait tous dire je t'aime, Strasbourg. Chauffe, Gérard, chauffe maintenant. Thank you.
France Inter. Le Mac de l'été, Anna Sigalevitch.
On vient d'écouter la chanson Strasbourg, extrait de votre récit poétique et musical. Le jeune noir à l'épée, inspiré dans le cadre de l'exposition Le modèle noir à Orsay par le tableau de Pierre Puvis de Chavannes. C'était votre dernière collaboration donc avec Gérard Joannest et vous lui consacrez même un texte dans le livre qui est très touchant.
J'ai partagé presque 15 ans avec lui. On a vécu des choses incroyables. C'était à la fois sur scène, en studio, dans la vie. Et c'était quelqu'un d'important, vraiment, dans ma vie. Et on avait dans l'idée de travailler sur un album, lui et moi. Et il est parti entre-temps, et voilà. Et donc, il a pas pu entendre ce morceau, par exemple. C'est une figure immense de la chanson française et de la musique tout court.
Et qu'est-ce qui vous a, vous, apporté artistiquement ? Et humainement.
Disons qu'il a consolidé des choses. L'idée de rigueur et l'idée aussi que trop sérieux n'est pas très sérieux non plus. Qu'il faut se détendre dans la vie, c'est important. Et voilà. Et puis cette humilité incroyable, c'est-à-dire quand même, c'était pas juste le pianiste de Jacques Brel, c'était le co-compositeur. Et lui et François Robert et Brel formaient ce fameux trio Mouira et tous les trois, c'était ça Jacques Brel en fait. Et c'est lui qui a co-composé toute l'œuvre de Brel quasiment. Et donc c'est une vraie légende, c'est quelqu'un, c'est incroyable. Puis ce talent, cette humilité, enfin c'était quelqu'un. Et cet engagement aussi, il avait un... Je parle de ça d'ailleurs dans le livre, quand je parle de lui, c'est un fils de résistant, il a été lui-même enfant résistant. Pendant la guerre, il a transporté des tracts anti-nazis, etc. Et c'était vraiment... Et donc voilà, il était tout ça Gérard, c'était un être rare.
Je vous propose d'écouter maintenant Abdelmalik, quelqu'un que vous connaissez depuis assez peu de temps, mais dont vous vous êtes senti, je crois, très proche, vite. C'est le metteur en scène et directeur du Théâtre de la Ville, Emmanuel de Marcimota. Emmanuel de Marcimota, bonjour.
Bonjour.
Comment a eu lieu la rencontre avec Abdelmalik ?
Ça a été une rencontre formidable, parce que c'était une rencontre qui s'est faite à la radio. On ne se connaissait pas et on s'est rencontrés lors d'une émission de France Inter, justement, où... Nous étions ensemble, lui pour parler de musique et de son spectacle musical autour de Camus, de son travail autour de Camus, et moi autour de mon travail théâtral autour de l'état de siège de Camus. Donc ça a été une rencontre immédiate et on s'est plu, je pense, immédiatement, dans toutes les réflexions croisées sur les grandes questions de l'être humain et comment Camus les abordait. Donc notre premier point de jonction, ça a été Camus.
Ça a été Camus. Et Camus, c'est donc un auteur qui vous est cher à tous les deux. Est-ce que Abdelmalik est pour vous, quelque part, assez camusien ?
Totalement, puisque Albert Camus, faut pas oublier d'où il vient. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette immense question, c'est d'où l'on vient à un moment donné. Et d'où l'on vient, ça peut être un lieu géographique, ça peut être une condition sociale, là je pense à Camus, ça peut être un enfant qui a failli arrêter ses études, je pense aussi à Camus, mais à beaucoup d'autres, et qui finalement va emprunter une trajectoire qui va être faite de grandes questions et de volonté de transformer le monde pour quelque chose de plus positif, en même temps en ayant une lucidité toujours sur ses propres actions. Donc ce sont des êtres qui s'interrogent, et je pense qu'Abdelmalik est un être qui s'interroge profondément sur la question de la vie, de la mort. C'est quelqu'un qui aime la philosophie, qui aime la poésie, et c'est en cela que je le reconnais, je dirais, profondément. C'est-à-dire, d'abord, c'est un artiste, mais c'est un être humain. C'est un être humain, et ce que j'entends par là, c'est l'idée que c'est quelqu'un qui sait s'enrichir de la vérité des autres. C'est-à-dire, c'est cette phrase d'Anatole France, c'est-à-dire celui qui a besoin des autres et des autres êtres, et qui n'est pas tout le temps en train de se lamenter sur son propre sort ou sur le sort des autres. Et c'est quelqu'un qui comprend fondamentalement que pour progresser, il faut éviter le conformisme. Et donc on a besoin de chercher et en même temps de proposer. Voilà.
Il est artiste ambassadeur du Théâtre de la Ville. Quel est ce rôle d'artiste ambassadeur ?
Donc être ambassadeur, c'est pour moi, et ce que j'en attends, c'est justement rencontrer à l'étranger, ailleurs, à Paris, en banlieue, des générations différentes, des êtres différents, des disciplines différentes, et pouvoir continuer à œuvrer pour cette grande chose qui est un théâtre de service public, un grand théâtre de service public.
C'est le projet que vous avez ensemble pour Les Justes de Camus qui va monter à la rentrée prochaine.
Absolument, Les Justes de Camus, c'est cette pièce extraordinaire sur finalement ces jeunes gens qui se posent la question de est-ce qu'on pose la bombe quand il y a un enfant, un innocent par rapport à ce que l'on pense, la question de l'innocence et de l'enfance qui est et la mort de l'enfant finalement, parce que c'est une pièce qu'on pourrait penser politique, mais c'est une pièce poétique et c'est une pièce, je dirais, qui pose la question de la mort de l'enfant qui est dans la calèche, mais c'est aussi une métaphore, c'est l'enfant qui est en nous. Donc je dirais cette puissance poétique de la pièce, je suis sûr que Abdelmalik la comprend profondément, de manière secrète, je dirais, intime, et c'est pour cela que c'est beau qu'il y ait cette collaboration avec le Théâtre du Châtelet, avec sa directrice, avec Ruth Mackenzie, qui permet justement d'inventer une autre forme, qui est du théâtre musical avec Albert Camus. Et j'ai envie de soutenir, d'accompagner cette aventure et de soutenir Abdelmalik dans la capacité qu'il a à faire des ponts, à être un homme-pont finalement, même si l'expression est étrange, c'est-à-dire celui qui permet que d'autres passent d'une rive à l'autre, parce que c'est ce passage d'une rive à l'autre. Donc c'est une collaboration importante avec le Théâtre du Châtelet, avec Malik, avec le théâtre, avec la musique, pour une création effectivement pour l'automne.
Est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez poser à Abdelmalik ?
Vous savez, il y a cette phrase du discours de Stockholm de 57 de Albert Camus où il dit « Chaque génération se croit vouée à refaire le monde ». À un moment, eh bien, comment est-ce que, Malik, tu penses toi-même que tu dois refaire le monde ? Est-ce que tu crois que tu es voué à le refaire ? Et qu'est-ce que, en quoi le théâtre peut t'aider à un moment donné, aussi dans ton chemin à toi et la compréhension intime de ce qu'est l'art du théâtre, c'est-à-dire un des arts les plus anciens ? Et qui est justement un art qui réunit des êtres face à face pendant un temps donné.
Difficile question.
Oui et non, parce oui. qu'il a répondu partiellement à la question en disant que, en tout cas, cette idée de changer le monde, l'outil, le théâtre est un outil majeur pour cette possibilité de changer le monde, en tout cas de mettre en lien, de faire se rencontrer ceux qui soi-disant ne peuvent pas ou ne doivent pas se rencontrer.
Le théâtre dans la simplicité de sa forme, dans son côté direct, en quoi ?
Dans les deux. Finalement, dans le fond et la forme. Moi, je fais partie de ces artistes qui pensent que la forme, c'est le fond. Oui. Donc, l'un et l'autre, c'est en écho.
Et que la forme se redéfinit en fonction du fond, c'est ça ?
Totalement. Et que le fond se redéfinit en fonction de la forme également. On peut tourner comme ça. Ouais. Et je pense que le théâtre est central pour ça. Et tout simplement, il y a quelque chose de mon point de vue, de fondamentalement spirituel dans le théâtre, dans cette idée dont, ce dont on parlait tout à l'heure, le cheminement et ce qui est mis en miroir, etc. Et d'une certaine manière, le théâtre, c'est le monde en petit, c'est l'univers en petit, c'est notre intérieur, c'est la projection de notre intérieur, etc. Donc voilà, et j'aurais pu continuer, il aurait pu continuer en terminant cette fameuse citation de Camus qu'il a commencé en disant « Ma génération se croit vouée à changer le monde ». Et il dit que non, les anciennes générations pensaient ça, et Camus précise en substance que pour lui, sa génération doit juste faire en sorte que le monde ne se défasse pas. Et je pense qu'on est là, faire en sorte que le monde ne se défasse pas.
Vous pensez qu'on a un moment charnière ?
On est à un moment.
Vous parlez de passé dans le livre, hein, du passé et de l'avenir.
Je vais vous dire, je pense qu'on est à 50-50. On est à 50 de la possibilité de la cité idéale, d'un monde meilleur, et à 50 du chaos, réellement, de la guerre civile et de tout ça. Et quand on vit une époque où il y a des gens qui pensent que le repli identitaire peut être une réponse, que des gens qui pensent que le populisme, revenir à des pensées extrêmes, on sait ce que ça a donné au cours du XXe siècle, et que ça peut être une réponse pour le XXIe siècle, on voit bien qu'on est au bord de quelque chose, au bord de quelque chose qui peut être le chaos. Et encore une fois, nous autres, Emmanuel, moi, d'autres, on pense que l'art et le théâtre, la musique, la poésie, ce sont des outils du changement positif.
C'est donc aussi peut-être pour ça que vous montez Camus aujourd'hui, hein. Il faut rappeler peut-être ce que raconte la pièce Les Justes. On est en 1905 à Moscou. Il y a un groupe de jeunes socialistes révolutionnaires qui vont commettre un attentat contre le grand-duc Serge, qui est un tyran. Et donc il y a des questions, voilà, à la fois politiques. Ça parle de politique, mais ça parle d'amour aussi. C'est un texte qui est extrêmement complexe, en 5 actes. C'est une pièce difficile. C'est un challenge énorme de monter cette pièce de Camus. Comment est-ce qu'elle résonne aujourd'hui ? Comment vous allez la monter ? Est-ce qu'elle est totalement intemporelle ? Est-ce que son actualité est brûlante ? Est-ce que vous allez réinventer la forme pour la rendre audible aujourd'hui ? Comment vous allez vous y prendre ?
Ben, disons que sans dévoiler un peu ce qu'on va faire,
pardon.
Non, mais il y a deux choses. Déjà, moi, j'ai lu ce texte comme une tragédie musicale.
Oui.
Parce que pour moi, il y a l'histoire, mais il y a la musicalité du texte de Camus. Camus nous dit quelque chose, ne serait-ce que dans la forme.
Oui.
Et la densité aussi de ce texte, qui est alors, évidemment une densité en termes de philosophique, en termes politiques, mais aussi qui est une densité poétique, réellement. Et pour moi, c'est une grande histoire d'amour aussi. Et puis, il y a ce dont Emmanuel parlait tout à l'heure, cette idée de lancer la bombe lorsque lorsqu'il y a un enfant. Cette réflexion sur l'innocence, la responsabilité, etc. Donc tout ça, mon idée, c'est je pense que non seulement c'est pertinent, mais c'est en phase avec aujourd'hui et maintenant, avec les problématiques d'aujourd'hui et maintenant, avec les choix qu'on doit faire aujourd'hui et maintenant. Elle est peut-être pas intemporelle, mais en tout cas, elle est parfaitement adaptée au 21e siècle et à notre époque aujourd'hui, à l'époque charnière dans laquelle on se trouve, et sur cette idée d'engagement, sur cette idée de sur la jeunesse, sur l'amour, sur l'innocence, etc.
Abdelmalik, vous êtes très sollicité par de grandes institutions, hein, le théâtre de la ville, donc le théâtre du Châtelet, qu'on entendait. Vous serez à la rentrée du 5 au 19 octobre, par le musée d'Orsay pour le jeune noir à l'épée, par l'opéra de Paris pour lequel vous avez fait un film, hein, pour la troisième scène, Othello. Donc voilà, vous êtes extrêmement sollicité par de grandes institutions reconnues. Ça vous honore ?
Bien sûr. Mais mon temps d'arrêt, il signifie que l'institution a un rôle. Mmh. L'institution, on a trop longtemps confondu l'institution et le décorum institutionnel, oui. On va dire, les ors de la République, le truc. Alors qu'en réalité, l'institution, c'est l'endroit où se joue la démocratie, en vie vivante. L'institution, c'est l'agora. C'est l'endroit où les citoyens se rencontrent, échangent, débattent, et nous autres artistes qui sommes finalement le symbole du citoyen en mouvement, qui interroge la société, qui interroge son pays, qui interroge l'Europe, qui interroge le monde. Et pour moi, l'institution est dans son rôle. Mmh. Après, moi, le point essentiel d'être au plus juste, il y a cette idée d'excellence. Et en ce sens-là, ce que vous êtes en train de dire aussi, ces institutions-là, on m'appelle pas pour mes beaux yeux. On m'appelle parce que tout d'un coup, il y a une pertinence entre l'art que je développe, moi, et qui est lié finalement, qui est lié à tout ce que je disais tout à l'heure, les peuples de la périphérie, les quartiers populaires, etc. Et la réalité de notre époque aujourd'hui et maintenant, mais surtout la capacité qu'on aura à rendre ces problématiques-là lisibles et digestes pour tous. Mmh. Et c'est en ce sens-là, voilà, encore une fois, pour moi, la notion d'excellence, c'est quelque chose de très important. Donc quand on y va aussi avec l'idée qu'on rentre dans ces institutions-là qui ont été portées par des artistes au talent incroyable, etc.
Ouais. Est-ce que Parfois, vous pouvez vous sentir aussi un petit peu coincé par toutes ces sollicitations, enfermé dans un rôle, hein, c'est-à-dire du noir, musulman, qui prône des valeurs de tolérance, etc. Est-ce que ça peut aussi être une sorte de carcan qui n'est pas si facile à briser que vous pouvez être un peu, voilà, la caution diversité, hein, vous plaisez à tout le monde, vous êtes extrêmement sympathique, vous défendez des valeurs que tout le monde défend, d'humanisme, d'universalité, etc. Mais est-ce que, voilà, par moment, vous pouvez vous sentir aussi coincé par ça?
Non, parce que d'abord, deux choses. Je vais employer ce mot, ce qui discrimine, c'est le talent. Est-ce que les formes, enfin, ce qu'on amène, notre proposition artistique, est-ce qu'elle est pertinente, artistiquement parlant, oui. Au-delà de toute valeur morale, éthique et tout ce qu'on veut? Est-ce que c'est pertinent artistiquement? Ça, c'est la première des choses. Et ça, c'est le premier regard, ce que je porte sur les choses. Ensuite, la deuxième chose, c'est que il y a la responsabilité artistique. Pour moi, aujourd'hui, un artiste, de fait, c'est pour ça, on parlait de ça avec Gréco tout à l'heure, en parlant de scène colère. Pour moi, un artiste doit être subversif. S'il n'est pas subversif, il n'est pas utile, il sert à rien. Et pour moi, aujourd'hui, être subversif, c'est la capacité qu'on a à dire « je t'aime », sincèrement. C'est comment on peut faire peuple avec les différents outils, réellement, concrètement. Comment on va faire du lien. C'est facile de créer de la rupture. C'est facile de décrire l'obscurité et le chaos. Mais allumer une bougie, c'est autre chose, ça. Et donc voilà, donc je suis pas du tout mal à l'aise ou je me sens pas coincé. Parce que, et puis, c'est moi. C'est pas, je joue pas un rôle.
Oui, vous vous sentez libre, absolument.
C'est moi. Et puis, encore une fois, on doit être, moi, je pense qu'un artiste, c'est l'enfant de son temps, de son époque, et on doit être réellement en phase avec son époque. Et pour moi, aujourd'hui, c'est là où se situe la pertinence. Être finalement contre, s'opposer, etc., etc., pour moi, c'est tout le monde peut l'être.
La subversion n'est pas là aujourd'hui.
La subversion n'est pas là au 21e siècle. J'étais à la librairie Kléber où j'ai présenté mon livre spectacle, en fait, le jeune noir à l'épée. J'ai partagé avec beaucoup de monde et tout ça. Et ensuite, tout de suite après, je suis allé dans ma cité, la cité dans laquelle j'ai grandi, au Neuf. Et j'ai vu, en fait, qu'il y avait un vrai décalage entre, comment dire, d'un côté, il y avait j'avais affaire à une population plutôt blanche, de tout âge, comme ça, cultivée, etc., etc., et totalement finalement en phase, ouvert, etc., avec le monde aujourd'hui et tout. Et de l'autre côté, je suis allé dans un endroit où il y avait des Français noirs, principalement, et des Français d'origine maghrébine, principalement, et des gens qui disaient que je représentais vraiment quelque chose d'important pour eux, vraiment qu'ils étaient fiers de moi, et ils se disaient que si quelqu'un comme moi était amené à disparaître, c'est que pour eux, ça voudrait dire que c'était la fin de tout. Et j'ai vu, franchement, j'ai vu là qu'il y avait le terreau d'une guerre civile. Et je me suis dit que vraiment, on doit écouter, parce que tout d'un coup, moi je pouvais être en lien avec... finalement avec deux France. Et je faisais finalement, je suis une sorte de passerelle comme ça. Et moi je pense que la chose la plus dangereuse, c'est à partir du moment où il y aura plus de possibilité de dialoguer, alors ça sera la fin de tout. Et on doit penser fortement à ça aujourd'hui.
On va écouter un artiste que vous aimez beaucoup, une chanson que vous évoquez dans le livre Heart of the City de Jay-Z.
Somebody got a problem with hope. What's up, y'all niggas all fed up? Cause I got a little cheddar and my record's moving out the store. Young fucks spitting at me, young rappers getting at me. My nigga Big predicted this shit exactly. More money, more problems, gotta move carefully. Cause faggots hate when you getting money like athletes. Youngins ice grilling me, oh, you not feeling me fine. It costs you nothing, pay me no mind. Look, I'm on my grind, cousin, ain't got time for frontin'. Sensitive thugs, y'all all need hugs. Damn, little mans, I'm just trying to do me. If the record's 2 mil, I'm just trying to move 3. Get a couple chicks, get them to try to do E. Hopefully they're menage before I reach my garage. I don't want much, fuck, I drove every car. Some nice cooked food, some nice clean drawers. Bird ass niggas, I don't mean to ruffle y'all. I know you waiting in the wing, but I'm doing my thing. Where's the love? I said, where's the love?
Ain't no love in the heart of time.
Yeah. And then the Fuji's gon' break up. Now every day I wake up, somebody got something to say. What's all the fucking fussing for? Because I'm grubbing more. And I pack heat like I'm the oven door. Niggas praying, pray on my downfall. But every time I hit the ground, I bounce up like round ball. Now I don't wanna have to kill soundball. Don't wanna have to cock back the 4 pound ball. Look, strap, I got nephews to look after. I'm not looking at you dudes, I'm looking past you. I thought I told you cactus, I'm not a rapper. Can I live? I told you 96 that I came to take this shit, and I did. Handle my biz, I scrambled like Randall with his. Cut in hand, but the only thing running is numbers, fam. Jigga held you down 6 summers, damn, where's the love?
Ain't no love in the heart of the city.
Niggas, where's the love?
Ain't no
my nigga, where's the love?
Ain't no love in the heart of time.
Fuck, then Richard Pryor gon' burn up. And Ike and Tina Turner break up. Then I wake up to more bullshit. You knew me before records, you never disrespected me. Now that I'm successful, you pullin' shit. Nigga, I'll step on your porch, step to your boss. Let's end the speculation, I'm talking to all of y'all. Male shouldn't be jealous, that's a female trait. What you mad, cause you push dimes and he sell weight? Y'all don't know my expenses, I gotta buy bigger plates and more baggies. Why you all aggy? Nigga, respect the game, that should be it. What you eat don't make me shit. Where's the love? Where's the love?
In the heart.
France Inter.
C'était Jay-Z, Heart of the City, extrait de l'album The Blueprint, sorti le 11 septembre 2001. Ouais. C'est pour vous un album qui est hautement symbolique, Abdelmalik, en quoi ?
Ben, pour moi, chaque époque a un peu son album de référence. Et pour moi, le Blueprint, comme son nom l'indique, c'est un peu la pierre angulaire de ce qu'est le rap moderne, j'ai envie de dire. Comme a pu être Thriller pour la pop musique et comme a pu être Kind of Blue pour le jazz.
Et vous dites aussi que, enfin dans le roman, que après avoir été à la périphérie, le hip-hop s'est retrouvé comme ça au centre de la culture et que c'est le plus grand mouvement depuis la chute du mur de Berlin, le plus grand mouvement culturel.
Ouais. Véritablement, ben on le voit. Je veux dire. Aujourd'hui, le rap, le hip-hop, ce qu'on appelle les cultures urbaines également, c'est au centre de tout. Que ce soit dans ce qu'on appelle la pop culture, donc qui embrasse tout ça, mais aussi, j'ai envie de dire, en termes de réflexion sur la ville, sur la périphérie, le centre, les réflexions sur le monde moderne, etc., etc. Ça embrasse tout.
Ouais. Et donc vous vous sentez complètement à votre place dans ce mouvement-là.
Véritablement. Et je pense même que il y a des penseurs, des gens qui essayent d'articuler une pensée autour de mouvements comme ça culturels et artistiques. Et moi, en toute humilité, bien sûr, j'ai envie de faire partie de ceux-là.
Abdelmalik, nous avons pour habitude de brosser une sorte de petit portrait chinois chaque jour de nos invités. C'est le moment pour vous de vous prêter à l'exercice. Si vous étiez un mot.
Amour.
Si vous aviez le pouvoir d'ordonner ce qui aujourd'hui vous paraît juste, l'ordonneriez-vous contre l'opposition de la majorité ?
D'accord, mais alors il faudrait que ce soit que ce soit quelque chose qui soit de l'ordre, de la justice pour tous et de la une forme de justesse aussi, parce qu'il faut faire attention à on peut virer dictateur comme ça. Donc voilà, toujours avec la nuance quand même.
Votre autocritique vous convient-elle ?
Pas suffisamment. Je suis très dur avec moi-même, donc des fois il faudrait que je puisse être un peu plus cool avec moi-même, je pense.
De quoi êtes-vous reconnaissant ?
De l'amour en retour. Ouais, voilà.
Si vous étiez un personnage de roman ?
Peut-être que je serais Meursault, finalement.
Aujourd'hui ?
Aujourd'hui, ouais.
Très bien. Quel espoir avez-vous abandonné ?
Non, j'abandonne jamais. Je n'ai abandonné aucun espoir. Abandonner, c'est mourir. Je n'abandonne jamais.
Est-ce que vous craignez l'esprit de sérieux ?
Oui. Trop sérieux n'est pas très sérieux, dit l'adage.
Avez-vous de l'humour quand vous êtes seul ?
Est-ce qu'on peut appeler ça de l'humour ?
Pourquoi les révolutionnaires redoutent-ils l'humour ?
Parce que c'est pas des vrais révolutionnaires.
Si vous étiez un événement historique ?
Le 18 juin, c'est pas loin, là. Donc j'aurais été le discours.
Votre musicien préféré ?
Musicien préféré, je dirais dans Brel, Jacques Brel, évidemment.
Votre devise favorite ?
La meilleure des choses qu'on puisse faire pour améliorer le monde, c'est s'améliorer soi-même.
Le Mac de l'été sur France Inter.
Abdelmalik, c'est le moment de nous pencher sur l'actualité culturelle des jours à venir, des rendez-vous repérés par l'équipe du Mac de l'été.
Les petits cirques.
Prenez la route du cirque. Imaginez un festival au cœur de l'été, à proximité du château de Nexon en Nouvelle-Aquitaine. Les ingrédients ? Voltige, trapèze, clown et magie. 12 spectacles y seront présentés sous chapiteau, en salle et en extérieur. Mais il y aura aussi des concerts, des expositions et des causeries. Autant de rendez-vous qui rendent ce festival atypique. La nouveauté de cette édition, Martin Palis, le directeur, propose des échauffements publics. Chaque matin, nous invitons le public à des échauffements, à réveiller le corps, comme le font les artistes de cirque. Ça s'adresse aux enfants, adolescents, adultes, y compris les personnes plus avancées en âge. Ces séances sont gratuites. Les artistes des troupes invitées les animeront bénévolement, nous annonce le directeur. Place au cirque ! On continue en lecture avec un premier roman publié aujourd'hui aux éditions du Seuil. Il s'agit de « Et l'ombre emporte ses voyageurs » de Marin Tince. Le manuscrit, raconte l'éditeur René de Secati, est arrivé par la poste sans destinataire. Dès que nous avons lu la lettre qui l'accompagnait, nous avons été surpris et séduits par son ton, ajoute-t-il. Ce que vous allez lire est étonnant, l'écriture inédite, le langage saisissant. nous ne résistons pas à l'envie de vous en lire un extrait. Voici donc un roman, pas autre, entendons-nous bien, tout de pompé dans ma petite féerie intime et rafistolé ça et là sur mes genoux, des coins de table, dans les voitures. Autant dire que j'anime simplement mes petits personnages internes, pas plus, rien n'est vrai, ni les êtres et ni les faits, pas confondre, le romanesque n'est pas fin, il y va bien de la romance. Je ne tartinerai donc pas plus épais sur la bête, tout est dit, m'épancher plus avant ne serait point à mon avantage. On peut tortiller tout ce que l'on veut et dans tous les sens, la vie, c'est vraiment rien qu'une figure imposée, vraie guerre d'usure. Foncez en librairie dès aujourd'hui.
Actors do a lot of dangerous stuff.
Anybody order fried sauerkraut?
Et oui, aujourd'hui, c'est aussi la sortie en salle du nouveau film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Le casting, comme toujours, flamboie. Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, le cadre Los Angeles des années 70. L'un, DiCaprio, est une star de séries télévisées de western, l'autre, Brad Pitt, sa doublure. Tous les deux souhaitent relancer leur carrière au cinéma et partent en Europe où le western spaghetti connaît son âge d'or. Présenté en première mondiale à Cannes, le film y avait soulevé de nombreuses questions sur ce montage. C'est une version légèrement rallongée que vous allez découvrir en salle aujourd'hui.
Anna Sigalevitch, le Mac de l'été sur France Inter.
Abdelmalik, est-ce que vous avez le souvenir de votre première grande émotion culturelle ?
Je crois que c'est La Flûte enchantée à l'opéra, je crois.
Oui.
Ouais.
Vous aviez quel âge ?
Oh, je devais avoir 11 ans, 12 ans.
Et comment vous vous êtes retrouvé à l'opéra ?
Totalement par hasard. Ouais. C'est-à-dire, il y a un ami qui était d'un milieu, socio-culturel totalement différent du mien. Il m'a dit, t'es déjà allé à l'opéra ? J'ai dit non. Il dit, je vais avec mes parents et tout. Viens avec moi. J'ai fait, oh, ça va me saouler et tout. Bon, ok, on y va. Je suis allé et ça a été bouleversant. Ça m'a bouleversé, en fait.
Ça a ouvert.
Ouais, c'était incroyable. J'ai pleuré et tout. C'était totalement inattendu. Et c'est là où je me suis rendu compte que des fois, on est confronté à la chose artistique et pas naturelle dans notre environnement et ça nous bouleverse.
Et c'est un parcours initiatique aussi, la flûte enchantée.
Total.
C'est ça l'histoire.
C'est ça l'histoire. Donc le début est, la fin était au début.
Merci beaucoup Abdelmalik d'avoir été avec nous sur France Inter dans le Mac de l'été. Je rappelle que votre livre « Méchante blessure » sera en librairie dès la semaine prochaine, le 22 août. Cette émission a été préparée par Élodie Royer et Marion Philippe avec l'aide de Maëlan Loaec. Elle a été réalisée par Clément Baudet, à la programmation musicale Elsa Béranger et à la prise de son aujourd'hui Maxime Ingrand et Paul Percheron. Après le journal, vous avez rendez-vous avec Éric Delvaux pour le téléphone sonne. Bonne soirée sur France Inter.